miser sur les flics, je m'énerverai pour rien. J'ai une très bonne tactique, je les fais mordre par mes chiens.
Je les ai, je les ai.
Jean-Loup Grossou et...
Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau.
Comment?
C'est plus mes pinceaux. Non, excusez-moi, j'étais tout à fait
un petit
chose.
Coup de pub, comme ça, directement. Quoi.
Que vous pouvez retrouver tous les samedis et tous les lundis des bons jours.
Non, mais en fait, si vous n'avez rien à dire, Tom, vous lui coupez le micro, puis on n'en parle
vrai.
Plus.
Oh là, là.
C'est dingue,
comment
ça.
Comment qu'elle fait trop ça, Jadou?
Ah, j'aime bien, vous savez.
Oui.
Je suis comme un vieux chat. Moi, j'aime bien toujours la même chose et tout. Ça me permet de ronronner tranquillement pendant.
Eh ben justement, c'est bien d'arrêter de ronronner. Vous ronronnez trop, et on se demande même si vous auriez pas quelque chose à force de ronronner comme ça.
C'est vrai. Vous inquiétez pas. Je vais voir le. Ah, j'arrive pas à dire.
Le pneumologue.
Ouais, j'arrive pas à le dire. Vendredi la semaine prochaine. Bon. Putain, à 11h30 le matin. Enculé. Enfin,
bon, à 11h30, c'est presque le début de l'après-midi.
Tout
hein.
Ça, mais après qu'on vit en décalage horaire, vous rendez pas compte. Les gens normaux.
Ah, vous êtes aux Antilles, normalement.
Bon, vous écoutez les Grignoux, je ne sais plus quoi dire. Vous écoutez les Grignoux, même... De toute façon, je vous présente même pas, Tom, puisque c'est comme ça. Tous les mercredis de 20h à 21h30, ça y est, je tiens bien, le dimanche à partir de 15h, donc 16h30. Sinon, vous tapez les Grignoux sans X, sans S. Et puis voilà, vous nous avez...
Ça y est, c'est bien.
Ça va mieux, là.
Ça va mieux.
Ça me détend un peu, là.
Il faut hein toujours qu'il répète. Allez, un petit dix, un petit dix, et puis nos auditeurs vont vite comprendre, comme ça me permettra de présenter l'émission.
Pendant qu'il dit, si vous pouvez me caresser derrière la tête.
Non.
Je ronronne un peu plus. Là. Allez, c'est parti, programmation spéciale.
Ça va pas être possible. Voilà, je répondrai à votre question tout à l'heure, mon bon Jean-Loup, parce qu'il est plus que temps de pour dire bonjour à notre invité qui piaffe d'impatience et qui est déjà au micro à côté de nous. Bonjour, Niki.
Cui, je piaffe. Oui, bonsoir. Bonsoir.
Les gnous.
Et voilà. Et on a demandé à Niki de faire notre programmation musicale. Et vous, on pense que
encore
Niki...
ça va. Sur ce morceau-là, ça va. Je pense qu'on vient d'écouter quoi, Niki?
Alors, c'est un morceau qui s'appelle 14 ans, qui est de mon projet que j'ai depuis 2011, qui est de punk metal, qui s'appelle Darwin. Voilà, et c'est le premier morceau que j'ai composé en français.
Ah, c'est pas facile dans ce style. De faire les...
Et donc, si vous êtes là ce soir et si vous êtes emparé de la programmation, en fait, j'ai réussi à négocier, ça a été dur avec les deux autres affreux. Mais ils ont bien voulu quand même. Ils ont bien voulu. Et je vous ai, en fait, je vous ai enregistré lorsque vous chantiez la chanson du Chevalier Noir dans le château de Clisson. Ils ont eu peur. Et comment Black Knight. Et ils ont eu un petit peu peur. Ils ont dit OK tout de suite. C'est-à-dire que c'est vous qui allez assurer toute la programmation. Et si vous êtes là ce soir, c'est pour nous faire découvrir un genre dans lequel vous excellez, mais dans lequel nous sommes particulièrement. Particulièrement ignare.
Ouais, un peu.
On va dire le. Comment vous diriez, Jean-Loup, le métal, comment le hardcore, je sais pas.
Voilà, ça, le métal, c'est bien, c'est génial.
Le métal.
Ouais. Et c'est vraiment tout ce que je connais dans ce qu'on appelle le hardcore ou, enfin, ou du métal, enfin, je sais pas si on peut appeler ça. C'était. J'ai dû m'arrêter à ACDC, mais période Bon Scott. Parce que après, c'était plus ACDC hein, pour moi. Ça remonte à quelques mois, on va dire ça comme ça. Quoi.
Et donc, on peut... l'occasion de fouiller dans tous nos souvenirs, de définir à peu près, d'y voir un peu plus clair, de présenter tout votre travail de musicien. Donc, vous officiez quand même en tant que bassiste.
Ouais, on pourrait peut-être en parler
avec
aussi.
Avec Trépodème Pâle, ce n'est tout pas rien, une légende quand même. Et par ailleurs, vous avez plein de projets par ailleurs et plein de réalisations par ailleurs. On vient d'en écouter une à l'instant.
Oui.
Et ben voilà, on va découvrir un monde tout à fait nouveau. On est un peu des explorateurs, nous.
On aime bien explorer. On aime bien explorer. Vous savez, il y a quelques mois, j'ai fait un peu mon caca nerveux avec France Culture et les Cramés. Et ben c'est normal que Nicky vienne pour nous parler, notamment de Trépodème Pâle. Mais cet homme-là, il est multi-instrumentiste, il est multiculturel.
Vous avez vu, vous avez réussi. Multi-instrumentaliste.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Multi-instrumentiste.
Ah ben je trouve que c'est mieux. Vous trouvez pas ?
Moi je suis un peu d'accord avec vous.
Tout le monde l'a compris quand j'ai dit ça.
On dit Rémi Bricard, tout le monde comprend.
Allez, on s'écoute un petit disque.
Alors lequel ? Parce qu'on n'a pas calé justement.
Ah, bah, justement, toujours la programmation à Nicky.
Vas-y, le deuxième.
Le deuxième, Révolution.
Révolution, c'est toujours Darwin. Alors comme ça, on aura fini avec Darwin. Et voilà, c'est une spéciale dédiée à tout ce qui se passe en ce moment.
Yes, et je note par contre Darwin parce que c'est des choses sur lesquelles on va revenir pendant la deuxième partie de l'émission lorsque vous nous parlerez
avec
de votre
plaisir.
Travail.
Avec plaisir.
Quand vous voulez. We'll be right back. c'est la rubrique à qui ? Bon Dieu, c'est la rubrique à qui ? C'est la rubrique à qui, bon Dieu ? C'est la rubrique à qui, bon Dieu de bordel ?
Oh, mais c'est la rubrique à Roger !
Alors, la rubrique à Roger, moi je veux bien, mais j'en connais un, il bouille. Il bouille parce que c'est la révolution, il n'est pas là, il n'y est pas. Alors que c'est le grand soir, il n'y est pas, et ça le fait yèche aussi. Je vais donner la parole à Jean-Loup, exceptionnellement, afin qu'il puisse nous exprimer tout le soutien qu'il voue au mouvement actuel. Et quand vous êtes arrivé à la maison ce soir pour préparer l'émission, vous aviez le poing levé et vous nous disiez, ça y est, Rungis vient de tomber.
Et à feu, et à sang. Non, mais c'est vrai que j'aimerais bien dire un petit mot sur, nos amis agriculteurs. Faut pas déconner, ils sont dans la merde, mais dans la merde jusqu'au cou. Et quand on est dans la merde jusqu'au cou, bah, il suffit de faire tout ce qui est interdit. Oh, vous bloquez une autoroute, aucun problème. Vous volez dans les supermarchés, aucun problème. Vous balancez des tonnes de lisier sur une préfecture, aucun problème. Vous bloquez les supermarchés, aucun problème. Le seul truc, c'est Rungis, on leur a dit, etc. Et
c'est le ventre de Paris, Rungis.
C'est le plus gros marché du monde, ça je le savais pas. Là, au
du
passage,
monde.
Ouais, du monde.
Même devant les États-Unis, même devant Chicago et tout.
Plus gros marché du monde qu'un Tom. Regardez, il me croit jamais quand je dis quelque chose.
Ah, mais du monde quand même, c'est un peu
mais les pauvres agriculteurs, et quand je vois aussi nos pauvres céréaliers là qui sont en train de faire le siège, vous tendez de faire le siège de Paris, un céréalier, comment dire, comme disait Fernand Reynaud, ça a eu payé, mais le jour ça paye pas beaucoup, comprenez, on est dans la misère, quelle colère on a, bref, c'est du délire complet, et quand on parle de deux poids, deux mesures, ça m'énerve. Tom,
alors effectivement, Rungis, le plus grand marché de produits frais au monde.
Voilà,
frais,
exactement.
Bah oui,
et je tacque.
Et alors, justement.
Je termine. Tom, vous qui connaissez un peu le milieu agricole, les tracteurs, vous voyez à la télé, ça coûte quoi, 20, 30 000 euros un tracteur
ça? Au début, je ne sais plus, je crois que c'est des minutes, semaine dernière, quand j'ai vu les photos qu'on voyait, c'était que des Fendt. Les Fendt, il faut savoir que c'est vraiment les Rolls-Royce.
Comment vous écrivez ça? Parce que moi, j'étais resté au Massey Ferguson.
F-E-N-D-T, ça doit être allemand, je crois.
Oh,
et c'est vraiment les Rolls-Royce, quoi. Ils rêvent tous d'en avoir, ceux qui en ont pas. Maintenant, ils sont rejoints par des vieux tracteurs, parce qu'il y a la Confédération Paysanne qui a l'air d'avoir rejoint le mouvement.
Les charrettes, donc.
Voilà. Ah, mais sinon, ouais, les gros, les gros de la FNSEA, ils sont tous en Fendt.
Combien ça vaut? Répondez à ma question.
Ça vaut, je sais pas, entre 150 et 200 000 euros la bête.
C'est pas facile. C'est pas facile.
Mais
faut rembourser, mon grand. Faut rembourser, quoi. Et ma retraite, 800 balles par mois, mais je vais mourir. Sauf qu'on l'oublie complètement de dire, ces gens-là ont des terres, ont une ferme, et ça vaut pas 100 euros, hein. Ça vaut les centaines de milliers d'euros, voire plus.
Mais Jean-Louis, vous me disiez, vous m'aviez promis que vous énerveriez pas, que vous observiez la scène de façon très amusée et très détachée.
J'arrête pas de dire, nos amis agriculteurs. J'ai pas dit que c'était nos amis.
C'est le cas.
J'adore les agriculteurs.
Vous devriez vous inspirez de la parole de Gérard Larcher. Gérard Larcher, le président du Sénat, qui a déclaré, après l'incendie à Narbonne, des préfectures souillées, il a jugé que hausser le ton, par exemple, c'est la réponse des forces de l'ordre, hausser le ton, pardon, ça c'est ce que font les paysans, fait partie du débat démocratique. Alors c'est marrant parce qu'il a dit ça après tout ça. Il y a une scène que je vous enverrai, ça passe très mal à la radio, mais c'est très amusant. On voit un tracteur reculer avec une benne, avec une remorque avec du lisier dedans. Et l'entrée de la porte, c'est marqué police nationale, commissariat. Ils font rentrer le truc dedans et rien. Balance,
c'est énorme. Rien. Là, c'est pas du lisier, c'est du fumier.
Vous avez vu la vidéo?
C'est du fumier.
C'est hallucinant. Et ils vident entièrement leur remorque de lisier dans la cour du commissariat. Et c'est totalement surréaliste parce que il n'y a pas une seule intervention, il n'y a pas le moins de gaz lacrymo. Moi, je veux bien, mais moi, je serais paysan de la Confédération paysanne, je me ferais pas chier, j'en demanderais encore plus. Alors, il y a un petit truc que j'ai trouvé aujourd'hui qui fait quand même un peu de désordre dans tout ça. Viticulture. Il couille, il y a les viticulteurs.
Bon viticulteur, nos amis viticulteurs.
Un réseau organisé de clandestins sahraouis découvert dans les vignes de l'Armagnac et du Jurançon. Les travailleurs sahraouis seraient logés, alors j'aime bien le conditionnel, hein, c'est un article de 20 minutes que j'ai piqué dans 20 minutes, serait logé dans des conditions insalubres pour tailler les vignes d'Armagnac et de Jurançon. Un coup de filet a eu lieu ce mardi, c'est-à-dire hier, entre Landes et Gers. La main d'œuvre clandestine était recrutée dans le Sahara occidental pour tailler les vignes dans les domaines de l'Armagnac et de Jurançon. La police de l'air et des frontières ont contrôlé 34 personnes logées dans des conditions insalubres, dans des appartements et même des caves d'un immeuble de Gabaret dans les Landes. Un Landais propriétaire de ces appartements a été interpellé. Parallèlement, un Français de 55 ans est soupçonné d'avoir mis en place ce réseau de travailleurs agricoles clandestins, etc. Et ce qui est... c'est là où l'article devient drôle. Depuis mardi matin, 5 hommes, dont 3 clandestins présumés, sont en garde à vue dans cette affaire gérée par le parquet de Bayonne. Des exploitants viticoles qui ont eu recours au réseau vont probablement être amenés à s'expliquer. J'aimerais bien, parce que ça porte un nom, c'est de l'esclavage.
Non, mais écoutez.
Alors, moi, je veux bien que le paysan, le viticulteur, je termine, mais le viticulteur ne soit pas au courant de l'affaire, mais qu'il ne se renseigne pas sur les conditions de logement. Et là, c'est les flics, hein, qui disent que les conditions de logement étaient insalubres. Hein, c'est la police de l'air et des frontières. Ça veut donc dire que là, on a affaire à une affaire d'esclavage, et il devrait peut-être être amené à témoigner, le bénéficiaire.
Je voulais vous dire, Roger, l'Armagnac, ça eût payé. Mais aujourd'hui, ça coûte cher, il n'avait pas le choix. Et moi, ce que je voulais dire, comment ça va se terminer? Parce que j'ai un don de devin, moi, je suis incroyable, moi, dès qu'il s'agit de nos amis agriculteurs, j'insiste lourdement sur nos amis agriculteurs, comment ça va se finir? Les 75 personnes qui sont en garde à vue vont rester quelques heures, et le commissaire Saria va les libérer en présentant ses excuses. Ils vont tout avoir, tout le pognon, etc., etc. Qui va morfler au bout de la chaîne, à votre avis? C'est le consommateur. Parce que s'il faut payer 20 centimes de plus du lait français, c'est sûrement le prix, j'en sais rien, je suis pas un spécialiste, quoi. Et le litre de lait qui est 1 euro, il va passer à 1,40 €. Et les gens se rendent pas compte qu'en surpayant l'agriculteur, quelque part, il y a quelqu'un qui va
surpayant.
Raquer, quoi.
Ou en payant choses, l'agriculteur. Il est normal comment les gens doivent pouvoir vivre.
C'est le consommateur qui l'aura dans le cul.
Les gens doivent pouvoir vivre de leur travail. Et le vrai problème, il est dans la distribution.
Ah oui, c'est les marges.
De toute façon, c'est toujours pareil. Vous prenez une plaquette de chocolat de 10 carrés. Sur les 10 carrés, il y en a 5 qui iront au distributeur. Alors que Leclerc, Carrefour ou n'importe quoi, lui, il ne fait que le mettre en rayon. Tout le travail du paysan, tout le travail du fabricant, du transformateur, etc., est nié dans cette chaîne et ne gagne des sous que le supermarché. Après, moi, je sais pas, moi je suis pas au gouvernement. Peut-être qu'il y aurait moyen de bosser sur la grande distribution.
Ils s'attaquent pas aux coopératives ni au Crédit Agricole. Hein, c'est le Crédit Agricole qui les endette. Hein, faut pas l'oublier. Mais là, pas de souci, quoi. Là. Bref, on aura dans le cul. Vous inquiétez pas, ça va bien se finir. Y a pas de souci. Cool. Détendez-vous.
Eh ben, on va s'écouter un petit mix en programmation de Niki. On s'écoute quoi, le troisième?
Alors, le troisième, ce sera un titre de Treponem Pal qui s'appelle Screamers, tiré de notre dernier album sorti en mars 2023.
Voilà, une musique de sourds fait pour les sourds. Allez, voilà.
Eh ben moi j'aime bien, mais il vous a pas dit.
Vous êtes un peu sourd.
Merci.
We choose the game and we choose the rules.
Allez, tiens, toujours dans la semaine à Roger, généralisation du SNU, Service National Universel. Ça représente, d'après le patron du syndicat des chefs d'établissement, pas vraiment à gauche, 150 000 postes d'enseignants et 1 million d'heures de cours perdus. Je m'explique. En fait, l'inspection générale a estimé il y a quelque temps que la généralisation que veut à tout prix Emmanuel Macron, c'est-à-dire il veut à tout prix que les gosses, pendant 15 jours, ils aillent au pas de l'oie ou à un autre pas, peut-être le pas du coq, je sais pas, on va peut-être inventer un truc français, et salut au drapeau, un uniforme, une petite casquette et tout ça.
Bah, les valeurs,
sauf que, valeurs et discipline. Sauf que tout ça, l'inspection générale a estimé il y a quelque temps que la généralisation du SNU coûterait entre 2,5 et 3 milliards d'euros, ce qui correspond à 50 000 postes d'enseignants. Alors il faut savoir où est la priorité. Est-ce qu'on veut effectivement embaucher des enseignants ou est-ce qu'on veut que les élèves marchent au pas ? Sans compter qu'en plus, le gouvernement se fait fort. Oui, il y en a marre, les profs ils sont jamais là, il faut toujours les remplacer. Regardez la ministre, l'actuelle ministre, elle a dit, elle est
toujours dans le gosse. Faut mettre vos gamins dans le privé, c'est pas compliqué.
Elle avait un mauvais... Alors, c'est vrai que les faits lui ont donné tort, elle a pas menti. Les faits lui ont donné tort, c'est-à-dire qu'effectivement, elle racontait que de la balle, mais bon, voilà. Et tout ça pour dire qu'effectivement, lorsqu'on fait la chasse aux heures perdues, il faut savoir que les 15 jours généralisés à l'ensemble des secondes, ça représente 1 million d'heures perdues. Alors au moment où on fait la chasse aux heures perdues, il va peut-être falloir déjà même reconquérir le mois de juillet, parce que pour récupérer ce 1 million d'heures perdues, donc je résume, 1 million d'heures perdues, 50 000 postes d'enseignants perdus, ça c'est une mesure qu'elle est bonne.
Bah pourquoi pas faire comme avant, un an de service militaire jusqu'à à partir de...
puis voilà. Je sais que vous regrettez de ne pas avoir fait votre service militaire.
Roger et moi, on est d'une génération où il y avait encore le service militaire. Et on l'a pas fait.
Et vous le regrettez ?
Non, absolument pas. Quoi. Alors, on a fait les fameux 3 jours. C'était une journée et demie. Bref, moi j'avais une excuse un petit peu pipeau. J'arrive avec mon excuse. J'étais prêt à développer ça pendant des heures et des heures. Hop, le mec il regarde, tatati, tatata, et j'étais exempté S4. Alors qu'est-ce que c'est que S4 ? Parce que tout le monde le pose membre supérieur 4.
Superman 4.
Bah, la grande chose qu'on a eue avec Roger, c'est qu'on faisait partie des enfants de Guy de la prospérité.
Non, j'ai pas triché. J'ai pas triché.
Et vous,
moi,
c'est normal.
Moi, j'étais sourd.
J'ai forcé le trait.
Ouais, mais en vous voyant, je vous réforme d'emblée.
Voilà, surtout vous voyez avec son âge. Allez, on va pas reparler de votre service militaire que vous n'avez pas fait parce que l'heure tourne et il faut falloir qu'on donne la parole à Niki quand même. Allez,
je parlerai de mon service militaire avec plaisir.
Eh ben voilà.
Vous l'avez fait, vous
Alors, ça a duré une demi-journée, mais je vais vous expliquer après.
Ok, voilà. D'accord. On note.
Philippe Vigier, vous le connaissez ?
Ah, je le connais, mais je ne m'ai plus...
Non, vous ne le connaissez pas, mais c'est l'ancien ministre de l'Outre-mer.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Personne ne le connaissait.
Vous même pas
maintenant, grâce à Mediapart, on le connaît. Vous savez pourquoi on le connaît ? Parce qu'il faut quand même savoir que, assez curieux, c'est rare dans l'histoire de la 5e, Macron nous aura un peu tout fait, c'est-à-dire... nomme un Premier ministre... On attend 15 jours, on nomme une poignée de ministres et on attend pratiquement un mois. Le problème, c'est qu'entre-temps, il n'y a pas de ministre des logements, pas de ministre de la solidarité, pas de ministre de ceci, pas de ministre des anciens combattants, pas de ministre de l'Outre-mer, etc. Que deviennent les ministres délégués et secrétaires d'État qui étaient normalement sur le top ? Vous êtes quelqu'un de logique, vous êtes...
Cartésien.
Alors vous allez me dire, normalement, qu'est-ce qu'ils font ?
Bah, ils font les économies, c'est pas compliqué.
Ça
coûte moins cher.
Vous étiez secrétaire d'État.
Ouais.
On a nommé 15 ministres. Vous n'avez pas été renommé, parce que de toute façon, on n'a même pas nommé quelqu'un à votre domaine. Qu'est-ce que vous devenez ?
C'est simple, parce que si j'étais secrétaire d'État, j'ai un putain de carnet d'adresse sur lequel je vais rebondir.
Non, mais vous ne me répondez pas. Qu'est-ce que vous devenez ? Vous n'avez pas été renommé, mais est-ce que vous avez été viré ?
Est-ce qu'ils sont fonctionnaires ou pas ?
Question. Pas fonctionnaires.
T'es viré.
Mais t'es pas viré parce qu'ils ont pas été renommés.
Est-ce qu'ils ont une retraite ?
Sans doute.
Oui, oui, oui.
Mais vous voyez l'ambiguïté de la chose. C'est-à-dire que suivant les ministères, il apparaîtrait que soit les gens se sont barrés, dans certains ministères, du jour au lendemain, monsieur le secrétaire d'État, je suis venu pour vous enlever votre badge. Le badge, vous avez ça, c'est le petit carton officiel frappé
alors,
aux armes de la République.
Que deviennent-ils ?
Le pot de fleurs, etc., etc. Pouf, pouf, la photo de la maîtresse. Hop, tout. Mais d'autres ministères, c'est plus cool. Un ministère qui dépend... un sous-ministère qui dépendait du ministère de l'Intérieur, donc de Gérard Darmanin, à savoir le ministère de l'Outre-mer. Ben lui, il est resté. Philippe Vigier, personne lui a rien dit, il est resté. Alors, il branle plus rien. Il branle plus rien. Ceux qui servent quand même logement de fonction, bah, je le garde, normal. Et en plus, ce qu'il fait chier, c'est que Mediapart vient de l'allumer et, en fait, il a continué à inviter ses potes au ministère, dans son ministère, sachant qu'il n'avait plus aucune fonction officielle. Donc, il ne peut même pas arguer d'un repas à des fins professionnelles, puisque, de toute façon, il ne l'est plus. Et quand on lui dit, quand Mediapart lui dit, mais c'est un peu bizarre ce que vous faites et tout, et il dit, ah, parce que vous, vous invitez pas les gens à manger chez vous. Voilà comment un peu dans la nouvelle France qu'on nous prépare, et ben on confond un petit peu les biens de la République avec ses biens propres. Et c'est d'autant plus amusant que, alors il a dit bon ok, puisque c'est comme ça, je vais les rembourser les repas. Purée, c'est quand même incroyable. Et suite aux déclarations de Mediapart, et ben pouf, comment le ce ministre-là avait prévu un repas dans son ministère et tout le monde finalement a été invité à la poule au pot à ses frais, un restaurant parisien, bien fait pour sa gueule. Mais heureusement pour lui, le sénateur, un exemple, pour la nutrition, le père Larcher, vient d'autoriser à laisser les sénateurs augmenter leurs frais de mandat de 700 euros. 700 euros, c'est un peu plus d'un demi-smic net.
Ouais. Là, ah,
il n'y a pas d'argent magique.
Ah non.
C'est ça qu'on nous dit. Hein.
Vous inquiétez pas, en 2027, ce sera le bonheur. Il n'y aura plus de Macron, tout ça sera parti. Et on va taxer les riches, on va tous se bien vivre. Enfin bon, j'espère.
À condition que vous votiez à gauche.
C'est ça. Et pour ça, il ne faut pas voter Marie Bénédicte.
Si vous votez, le parti des petits chats, c'est baisé.
Que reste-t-il de la gauche, hein, je veux pas poser.
Ah ouais, bon, on verra. On ne sait même pas qui c'est qui va être candidat.
Mélenchon, hein, je ne parle pas de la France insoumise, même si j'en parle indirectement. C'est hors de question, ça va.
On n'y est pas.
Dictature, c'est bon.
On n'y est pas.
J'espère qu'on n'y sera jamais. Voilà. Et c'est pas l'anti-gauche, hein, c'est l'anti-Mélenchon. C'est pas la même chose. Allez, un petit disque.
La programmation Annie, c'est qui?
Alors le prochain, tu me redis Tom, c'est Drapeau Noir, c'est toujours Darwin. Et voilà, ça c'est un des morceaux du prochain album qui sortira, j'espère, d'ici 2025 maximum. C'est parti.
vengeance, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.
Le seul drapeau anti dans l'histoire.
Vous avez tout pour réussir. Vous êtes beau, intelligent, cultivé, vous n'êtes pas timide. À Rennes, vous connaissez tout le monde, vous êtes dans les petits papiers de la mairie, vous connaissez des gens importants dans le domaine de la télé, la radio, les journaux, vous traînez dans les cocktails et les vernissages. Vous êtes toujours impliqué dans les moments importants de la vie culturelle du district. Mais pour les grignoux, vous êtes...
Je vous ai tout...
Seulement le portrait de la semaine, ce qui est déjà pas mal.
Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ressorti ce vieux jingle. On remercie encore au passage Paco qui...
Oui.
Hein, c'est vrai qu'après, on a eu d'autres techniciens qui étaient quand même moins bons du générique.
Ah hein. Oui, ça c'est
plus
sûr.
Plus feignasse, on va dire ça comme ça.
C'était feignasse. Même des grosses loches.
Il était jeune, Paco, à l'époque.
Ah, des grosses loches.
Ce soir, on accueille Niki, justement.
Tchernenko.
Voilà, qui nous fait la programmation depuis le début de soirée. Vous avez remarqué, un nom de Dieu, ça rigole pas.
Bah là, il était temps, ça a un peu décrassé les enceintes. Oh, hein, voilà. Comment il y avait des plaintes.
Avant de commencer, nous, on bien toujours parler du personnage. Mmh. Pour vous, ça a été quoi le déclic pour tomber dans, on va dire, le rock au sens très large?
Alors, il y avait plusieurs déclics. Le premier déclic, je pense que... Alors, moi, je suis chanteur de formation, en fait. Tout le reste, je suis autodidacte, complètement.
Comment on devient chanteur de formation?
Alors, en fait, j'ai exploré tout seul le chant. Pour la petite anecdote, en fait, j'ai mis longtemps à parler quand j'étais petit. Et mes parents, en revenant de chez des amis... s'arrête à un feu rouge, se retourne parce que j'étais en train de chanter. Alors ça, c'est exclu pour les grignoux. Sans chemise, sans pantalon, oui, de Rick Azaray.
On était jeunes aussi.
Voilà, et je n'avais aucun gramme d'alcool dans le sang.
Et vous n'aviez jusqu'à présent jamais parlé.
Et je n'avais jamais parlé. Et mes parents, ils ont laissé le feu vert passer, ils m'ont regardé. Et dit mais il parle ce con. Et en plus il fait Rick Azaray. Bon, alors mes premières paroles c'était une chanson. Donc déjà bon voilà, après j'ai un grand-père qui chantait beaucoup, des grands-parents très mélomanes, voilà, qui m'ont un petit peu initié, on va dire au classique, énormément au classique. Mes parents qui écoutaient Brassens, Brel, surtout ma mère. Et puis la musique classique, hein, Beethoven, moi je suis un gros fan de Bach aussi. Et puis à 25 ans, enfin un petit peu avant, moi j'ai commencé à faire mes premiers groupes de rock, metal et tout ça au lycée. Et à un moment donné, je stagnais,
lycée.
Quoi.
Dès
voilà.
Le lycée.
Ouais, dès le lycée.
Alors vous nous dites que vous étiez donc dans le chant, ouais. Assez éclectique.
Mais comment vous êtes passé au rock?
Pourquoi le rock?
Alors pourquoi le rock? Je pense que j'ai baigné un petit peu dans quelque chose d'un petit peu rock and roll dans l'esprit, en tout cas.
Rick Azaray, vous m'étonnez.
Alors Rick Azaray, je pense que ça devait passer à la télé parce que là,
bah,
voilà,
on
n'en avions
sans
aucun.
Sans chemise, sans pantalon, nous... c'est pas Rick Azaray.
Ouais, enfin c'est tout un programme en même temps.
C'était Annie voilà. Cordy. Hein.
Ouais. Et non, mais mon père écoutait beaucoup Elvis Presley, par exemple. Moi, j'ai les 45 tours de In the Ghetto, tout ça. J'ai passé ça en boucle par rapport à ma grande sœur, voilà, qui écoutait moins ce genre de choses de mes parents. Moi, j'allais toujours fouiller un petit peu, gamin, là-dedans. Après, j'ai eu des trucs un peu de jazz aussi, hein. Voilà, le livre de la jungle, voilà, il y avait des BO qui m'ont marqué à vie, en fait, quand j'étais tout petit. Et le rock, voilà, moi j'adorais la guitare, j'étais fasciné par la guitare, je voyais les guitares, j'étais fasciné.
Tout petit.
Ouais. Et un jour j'ai 200 francs, je me rappelle à Noël de ma marraine, qui était, voilà, repose en paix. Et qui me disait toujours il faut que tu l'utilises pour toi, qui était un peu anard et tout ça. Donc voilà, je pense que j'hérite de la sœur de mon grand-père. Et j'ai en Espagne acheté une guitare à 200 francs. J'ai claqué mes 200 francs sans dire à mes parents. Et j'ai ramené cette guitare. Et mon père, je me rappelle de cette phrase qui m'a dit, qui rigolait, qui me disait mais qu'est-ce que tu veux sortir un son de là-dedans?
Vous aviez quel âge?
Je devais avoir 11 ans et demi. Et finalement, j'en ai fait mon métier. Voilà, tout ça. Et puis pareil, voilà,
donc
tout
vous avez commencé à apprendre sur la guitare sèche.
Tout à fait. Oui, sans rien du tout.
Mais comment on fait? Ça m'étonne, moi qui ne suis pas un peu de musicien. Il faut avoir une oreille pour ça.
C'est ça. Mais je pense que ça, c'est ma génération. Alors j'ai 49 ans, mais je pense que tous les musiciens de ma génération, et même un petit peu après, on n'avait pas des outils extraordinaires aujourd'hui que j'utilise comme prof. C'est-à-dire.
Il n'y avait pas Internet.
Il n'y avait pas Guitar Pro, il n'y avait pas des trucs comme ça où on avait des tablatures, des choses comme ça. Non, on avait les vinyles des parents, la guitare et démerde-toi. C'est-à-dire que moi, je ne savais même pas accorder ma guitare. qu'il fallait que bah, je sache un petit peu. Moi, ma mère écoutait énormément Brassens. Je pense que c'est un petit peu moins le cas parce qu'elle est dans les dom-toms, donc je pense qu'elle est passée à autre chose. Mais quand j'étais petit, elle écoutait énormément Brassens. Et moi, ça m'a fasciné. Et j'ai donc étudié tout seul à l'oreille. Brassens, Maxime Le Forestier, qui c'est qu'il y avait encore, enfin tout ça.
Alors, moi je dis à l'oreille, le problème c'est que vous enregistriez le morceau et vous le rejouiez sans arrêt.
C'est ça.
Parce que du coup vous réécriviez rien, même pas
rien
de tablature.
Rien. Et j'apprenais à lire, donc bon voilà.
Et pour le chant, pareil, moi j'y connais rien, je pose des questions très naïves. Est-ce qu'une belle voix ça suffit?
Alors c'est un.
Faut avoir autre chose.
C'est quoi déjà?
Vous chantez bien. Où est-ce qu'il faut?
Non, plutôt qu'une belle voix, chanter juste peut-être.
Alors, chanter juste, c'est une question d'oreille.
Voilà, je reviens. Ouais,
alors, moi, j'ai beaucoup d'élèves, et pas qu'en France, j'en ai au Québec, j'en ai en Inde, j'en ai un peu partout. Le chant, c'est vrai. C'est devenu vraiment ma spécialité parce que je suis allé au fond des choses. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs, dont Raymond Viret, qui a fêté ses 100 ans, là, à Noël, qui enseigne toujours. À Paris, qui a fait faire des albums de jazz à François Morel, qui est qui a Maxime Le Forestier, on en parlait tout à l'heure, qui a Jacques Weber comme acteur, enfin plein de choses comme ça, qui a fait faire la première pièce de théâtre à la fille d'Alain Delon. Ça c'est pour coller l'actu un petit peu à Anouchka.
Alain Delon, voilà, je crois qu'il va être déclaré incapable.
Je crois qu'il y a eu un truc qui est tombé il y a 24 heures ou 48 heures là-dessus. Enfin voilà, moi j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer, dès que je me suis intéressé à tout ça, à des gens extrêmement compétents et qui m'ont formé. En fait, j'ai une professeur à New York aussi, Mélissa Cross, qui m'a, elle, enseigné des choses, des techniques de voix fabriquée. Alors l'opéra, c'est une voix fabriquée, j'ai fait l'opéra il y a une vingtaine d'années déjà. Mais voilà, pour le métal, par exemple, on écoutera, je pense, tout à l'heure, des titres où je chante du death metal, je fais du black metal. Enfin voilà, les spécialistes comprendront ce que je veux dire. Où c'est des voix un peu grôles qui viennent du jazz d'ailleurs, hein. Boum, 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 le truc comme ça. C'est des choses qu'on entendait dans le jazz dans les années 50. Et bon, le death metal a repris ça, et moi j'enseigne ces techniques-là pour ne pas se faire mal, justement.
Et donc, voilà. Cet amour pour la musique vous a poussé à faire des études, je parle toujours de vie personnelle, oui. Vis-à-vis de ça, en fait.
Alors,
de l'art, en général.
Oui, après un parcours d'étudiant où j'ai fait deux licences à Rennes 2,
entre deux grèves.
Voilà, entre deux grèves, voilà, par correspondance d'ailleurs. Parce que moi, je pouvais plus. Mais je bossais comme surveillant surtout, et déjà la fibre pédagogique,
vous
prenez déjà, et après j'ai beaucoup beaucoup voyagé. J'ai la chance d'avoir des parents qui sont partis vivre en Amérique du Sud, en Guyane française, et donc c'est un carrefour culturel incroyable entre l'Amérique du Sud, justement le Brésil, vous avez les Caraïbes et tout ça. Donc moi j'ai appris énormément de choses, j'ai rencontré des gens extraordinaires là-bas. On parle pas assez du côté culturel de la Guyane, mais c'est un truc de dingue. Donc je me suis enrichi comme ça, et donc je suis venu au chant, je suis venu à l'issue de mes études, j'avais le choix entre être journaliste, j'étais journaliste en radio, à Radio Caraïbes International. Alors petite dédicace à ma pote Patricia qui est en Martinique et qui nous écoute en direct, je pense.
C'est vrai,
qui est en Martinique.
Ah c'est vrai, je vous avais parlé de ça quand je vous avais invité à l'émission.
D'ailleurs j'ai toujours du rhum là. Voilà, petite dédicace à Patricia que j'embrasse bien fort, qui est en Martinique. Pour moi, ce mélange-là est extrêmement important. Et c'est à l'issue de ça où j'étais journaliste, j'ai eu le choix entre être journaliste ou être musicien.
Vous avez quel âge?
J'avais 25 ans, là. Donc j'avais fait mes licences, j'avais fait un BTS par correspondance, où là j'ai découvert le journalisme, qui me passionnait aussi, c'est-à-dire le vrai journalisme avec sa charte, son honnêteté, sa non-volonté de faire du chiffre et de vendre des produits publicitaires, bref. Donc... ça me passionnait, le journalisme. Rencontrer les gens, interviewer un jour un sculpteur en Guyane qui est au milieu de la forêt, qui peint des rochers, enfin bref. Et puis le président de la région dans la même matinée, pour moi, c'était incroyable. Je trouvais ça incroyable. Cette curiosité-là m'a toujours habité. Et donc, j'étais reçu à l'école de Michel Cotta à Nice, nouvelle. J'étais reçu à Paris, à Bordeaux, enfin voilà, j'ai à Lille aussi.
École de journalisme.
En école de journalisme. Et j'ai fait mon audition à Music Academy International à Nancy et j'étais reçu. Mais là, ce qui a fait la différence, c'est je me suis senti chez moi, vraiment.
Alors, c'est-à-dire, à Nancy, qu'est-ce que vous aviez préparé à Nancy pour aller
En fait, j'avais un ami qui était là-bas depuis le mois, enfin, qui est rentré en septembre, et il y avait plusieurs rentrées par an, et qui me dit, viens, et à qui je faisais de la musique. Enfin, on avait deux groupes dans mon village, enfin bref, il faisait partie du deuxième groupe, et puis on jouait ensemble un petit peu, et il m'a dit, viens, tu vas voir, c'est... Lui, il savait déjà que c'était pour moi, c'était fait pour moi. Donc j'arrive... Et je passe une audition comme ça, et en fait, j'en ai pas parlé à mes parents. J'en ai parlé à ma grand-mère. Mes parents n'étaient pas trop pour ce choix.
Ils auraient préféré le journalisme.
Ouais, largement. Voir professeur en fac, etc.
C'est mieux sur une carte de visite.
Oui, bien sûr. Alors, a priori, c'est mieux. A priori, c'est mieux. Et donc, j'appelle ma grand-mère, je dis, c'est bon, j'ai réussi l'audition. Incroyable. À l'époque, il y avait des auditions pour chanteurs. C'est-à-dire qu'on n'était pas, comme aujourd'hui, cantonné peut-être à la pop musique et tout ça. On faisait vraiment tous les styles. C'est-à-dire qu'on faisait de la world music, on faisait du jazz, on faisait du rock, on faisait du métal, on faisait plein de choses, du blues et que sais-je. Et donc j'étais pris et je me suis dit, ah. Donc je suis rentré à Rennes, j'ai repris mon train pour Rennes et je me suis dit, ouais, non, c'est ça que je veux faire. Et donc j'ai pris tous les risques et j'ai dit, bon, je signe et voilà.
C'est une formation qui consiste en quoi, du coup, à Nancy ?
C'est une formation, c'est un centre de formation professionnelle. Donc à l'époque j'avais économisé la moitié du prix de la formation hein, qui coûtait, alors ça va vous parler à vous c'était le prix d'une 205 GTI en gros.
Quand même, voilà. Attendez, on a un technicien qui a une 205 qui a été volée par des gitans.
Oui,
et ben on l'a vu en Roumanie l'autre jour.
Alors si vous retrouvez mes blousons de cuir dedans, c'est bien parce que je me suis fait braquer aussi.
Et quand vous parliez des 200 francs, ça fait 30 euros à peu près.
Voilà, c'est ça.
Traduire.
Exactement. Donc ça coûtait très cher et j'ai été voir la mission locale, j'ai été voir plein de gens et j'ai été voir la responsable de la culture à la région Bretagne, au culot. Et on se connaissait un petit peu hein, pour dire la vérité. Et elle m'a dit, passe demain matin à 9h, on prend un café. Et j'avais vu que la région Bretagne était partenaire de cette école. Elle l'est toujours, je pense, enfin j'espère. Ça a changé de main depuis. Hein. Mais voilà. Et en sortant, elle m'a dit, bon, t'as combien ? J'ai dit, j'ai la moitié. Elle m'a dit, l'autre moitié, c'est bon pour toi. Wow. Donc, moi, ça a changé ma vie, ce moment-là. Un café, j'ai longtemps habité à côté de la région Bretagne. Et à chaque fois que je passe devant, je repense à ce moment. Et d'ailleurs, merci Michel. Hein, voilà. Je lui ai redit, mais celle qui est en retraite est dans le Finistère maintenant. Mais voilà, ça a été le départ de tout. Et j'ai vécu l'année, c'est sur une année. Alors maintenant, ça se fait, je crois, en 3 ans. Et puis, c'est un petit peu dilué tout ça. Bon, c'était une année extrêmement intense. C'est-à-dire qu'on bouffait 7 ans de conservatoire en un an.
Oh la vache.
Et j'ai été diplômé, mention très bien. Alors, il y a énormément d'artistes qui sont sortis de cette école, qui ont fait et qui font des carrières extraordinaires, quel que soit le style, dans le jazz, dans le métal, des stars internationales qui sont passées par là. Donc j'étais extrêmement honoré de ça. Et moi, je suis resté 5 ans à Nancy, derrière. Et puis, je suis rentré en Bretagne parce que la mer me manquait, parce que plein de raisons. Et voilà. Et l'aventure était... Et c'était le chant que j'avais choisi.
Voilà.
Faisais la basse.
Et vous en Bretagne, vous avez une trentaine d'années.
J'avais 30 ans.
Ok.
On va s'écouter un petit disque.
On s'écoute quoi ?
J'étais un peu long.
Non, mais c'est très bien. Il y a juste qu'il va falloir que vous nous disiez ce qu'on s'écoute parce que c'est quand même vous le patron du programme.
Alors le prochain, je crois, c'est Ezekielson, c'est ça ?
C'est ça.
Alors c'est un. Juste pour présenter en 2 secondes, c'est un projet que j'ai. Nous sommes 2 à le faire avec le membre de mon premier groupe. Voilà, le guitariste de mon premier groupe qui lui ne fait pas du tout carrière dans la musique, mais qui vit chez lui un peu comme beaucoup d'artistes. que je rencontre qui ne sortent pas de l'ombre, voilà, avec qui je compose, et voilà, c'est un album qui est sorti en 2017, et voilà, chaque morceau on le faisait en un week-end, on arrivait le vendredi soir sans rien, on a un pote qui a un super resto à Château-Giron d'ailleurs, rue de la Madeleine, la pizza bon, Cartini, voilà, Cartini, voilà, 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 Olivier, voilà.
C'est pour et toi, sur présentation d'un ticket coupon,
et voilà, exactement, vous aurez droit à la bise de la patronne de ma part, si vous venez de ma part, mais en tout cas, voilà, on commençait là, et on finissait le dimanche soir, et on avait ce que vous allez écouter, et donc on a fait 12 week-ends, 12 morceaux, un album.
On est dans quel style, voilà, là, du coup?
Alors là, on est vraiment dans du metal extrême, ce qu'on appelle le metal extrême, c'est-à-dire que c'est un mélange de death metal au niveau de la voix, alors là, je suis à la voix, essentiellement. C'est metal extrême, donc c'est une voix grôle comme ça un petit peu, voilà, et c'est extrêmement rapide. Alors on est inspiré de groupes, pour ceux qui auront la curiosité d'aller voir un génie de notre temps vraiment qui s'appelle Devin Townsend et qui avait un groupe qui s'appelait Strapping Young Lad à l'époque, un groupe canadien, et maintenant il fait des choses beaucoup plus new age et plus cool, mais il avait ce, comme il est bipolaire, il avait ce côté un petit peu ultra speed, et voilà, c'est ce qu'on a voulu faire, et voilà, et ça c'est pour toi mon Wawan.
C'est parti.
There's no way to escape. The bloody stairs.
Après ce morceau-là, j'avais une question à vous poser.
On dirait, juste une petite remarque, on dirait la voix de Hortolo.
Oui, c'est vrai.
Bah, est-ce que quand vous chantez, est-ce que vous hurlez, c'est pas péjoratif, ou est-ce que c'est des techniques, tout simplement?
Alors, c'est de la technique pure. En fait, moi très longtemps, alors j'étais très attiré par ce genre dans les années début des années 90. Moi en 91, j'ai découvert Morbid Angel.
C'est une marmite du heavy parce que en tant que chanteur, c'est assez curieux. Conservatoire, vous faites chier à apprendre plein d'œuvres classiques, et là, bum, vous rentrez à Rennes, et puis là,
mais il pourrait pas, répondre.
Justement, c'est là qu'il va nous dire comment ça se fait qu'il est tombé dans la marmite de retour.
Alors, comment je parlais de chant, mais je peux pas.
Mais en fait, on parle de chant.
En fait, le truc, contrariant.
ça me rappelle beaucoup de choses. Voilà. Il y a pas 36 façons de chanter. En fait, là, c'est le professeur qui parle et l'artiste. Mais d'abord le professeur. C'est pas à peine de se gaver de sucre. Il y en a qui vont dire du Pepsi,
du miel.
Voilà, du miel. On m'a dit, faut être dégénéré pour être non, fuck that. Il faut juste aller vers les bonnes personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes personnes. Alors, il y a des mauvaises personnes. Moi, je devrais pas dire qu'il y a des mauvaises personnes parce que je les récupère et du coup, je les reforme et je les corrige, etc. Mais c'est une technique. Moi, j'ai une prof qui s'appelle Mélissa Cross. Alors, je vous encourage, ceux qui s'intéressent, à aller voir sur Internet Mélissa Cross et de vous procurer sa méthode qui s'appelle The Zen of Screaming. Zen, justement, voilà. On en parlait
screaming,
un petit peu.
Screaming, mais c'est le cri.
Ouais, mais le zen, c'est le zen aussi. Je pense que le premier terme, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le plus important. C'est-à-dire que pour avoir l'impression qu'on gueule comme ça et qu'il faut de choses, eh bien, il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Et moi, pourquoi je me suis fasciné par le chant? Parce que c'est un instrument qu'on ne voit pas. Alors, en enseignant la guitare, la basse, le ukulélé, la cigar box, le bouzouki irlandais, etc., j'enseigne le chant. La moitié de mes élèves sont des chanteurs et des chanteuses, bien sûr. Et je leur dis, c'est l'instrument le plus difficile. Parce que un piano, on le voit. Une guitare, on la voit. Un ukulélé, etc., on voit l'instrument. La voix, les cordes vocales, on ne les voit pas. Voilà. Alors, c'est extrêmement mental. C'est 80% dans la tête.
Alors, c'est vrai que c'est rigolo parce que là, j'ai découvert sur YouTube une chanteuse qui s'appelle Lisa Hannigan. Je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Tout à fait, ouais.
Et j'ai découvert un morceau où elle parle comme ça. Elle chante toute sa chanson. Elle est au ukulélé, justement. Mmh. Et c'est une chanson que j'avais envie de copier et de donner à une de vos élèves, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Coucou Letty. Coucou Letty.
Et vous connaissez Lisa Hannigan? Comment elle fait pour balancer cette voix-là? Ça peut monter dans les cubes, je sais pas.
Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous inégaux devant la voix.
Ok.
Ah, bon, ça va. Point de direction.
Voilà. Vous partez perdant.
Voilà. Attendez, non, pas forcément.
Je le connais. J'écoute.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des chanteurs, alors par ceux qui ont l'ego un peu mal placé, mais la majorité des chanteurs n'aiment pas leur voix au départ. Après, on peut s'habituer à la voix, on peut l'apprivoiser. Moi, je l'ai apprivoisée, j'aime bien ma voix maintenant, mais bien que je n'écoute plus jamais les albums que j'ai enregistrés comme chanteur. Mais moi, j'ai beaucoup d'élèves qui viennent me dire « Ah, j'aimerais chanter comme un tel, comme une telle. » Je dis « Oui, mais ce n'est pas un cours d'imitation, c'est un cours de voix. Et si vous aimez tel ou tel chanteur ou telle chanteuse, eh bien, c'est parce que, justement, leur voix personnelle, leur empreinte personnelle, et voilà, et c'est ce qui fait toute la beauté d'une voix.
Et donc c'est mieux qu'un instrument de musique, parce que les instruments de musique sont normalisés, mais la voix, elle est unique.
Alors, oui, bien sûr. Alors là, exactement, je vous rejoins complètement là-dessus. C'est-à-dire, mais c'est notre instrument à nous. Il n'y a pas plus intime que la voix. Il n'y a pas plus intime que la voix.
Mais il y a un paradoxe quand même dans la voix, et j'explique souvent aux gens qui n'ont jamais parlé à la radio, il y a un truc qui est déstabilisant, on ne reconnaît pas sa voix.
Jamais. Ah, ça, c'est l'oreille interne.
Ouais, c'est
l'oreille interne. C'est l'oreille interne. L'oreille interne nous fait...
Je comprends et je me dépêche d'oublier.
Ouais, l'oreille interne nous fait entendre notre voix d'une certaine manière, dès lors qu'on s'enregistre ou qu'on se voit dans une vidéo...
On ne se reconnaît pas.
On se reconnaît pas, on se dit, ah, qu'est-ce que c'est que c'est. Et on a un sentiment sentiment de rejet. Alors moi, j'ai une empreinte vocale qui est objectivement très particulière, que je n'entends absolument pas comme ça quand je parle.
Ouais, ouais.
Mais que nous, on n'entend pas.
Voilà. Et alors, un des objectifs que j'ai fait avec mes élèves, c'est de combler ce fossé entre ce que eux perçoivent réellement et ce qu'ils émettent. L'oreille interne, avec le crâne, etc. Ça me donne une voix qui est modifiée acoustiquement par rapport à nos auditeurs.
Et donc, vous avez des exercices, etc., tout à fait. Qui permettent de travailler là-dessus.
Oui, ouais, tout à fait.
Une question que je voulais vous poser, mais ouais. J'ai peur de votre réponse. Quand on chante faux, est-ce que ouais. Le cas est désespéré?
Non.
Est-ce qu'il y a
non.
moyen de chanter
non, non,
bien
non. Moi, j'ai. Alors, non.
Si vous on pouvez me dire, le cas est ouais, désespéré.
Non, mais. Pour avoir chanté avec
une confiance. Laissez-moi un bûcher. Non, 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 pas du tout. Non, si on chante faux, c'est qu'on entend mal, tout simplement.
Mais pourtant, il entend bien.
Ouais, ouais, je suis
non, 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 non. On entend mal. Moi, j'ai le cas. Alors, je peux vous dire qu'il y a, en 2000, dans les années 2006-2007, j'avais un pianiste qui a d'abord été mon élève en chant, à qui j'ai fait de la chanson française. Donc, on est loin de ce qu'on vient d'écouter. Mais qui avait. Alors, j'aime pas dire faux, j'aime souvent dire décalé. C'est-à-dire que on reproduit ce que l'on entend. Donc, si on entend mal, on reproduit mal.
Mais moi, j'entends très bien.
Non, non, mais si vous êtes.
On te dit
si
que t'entends mal.
Si vous êtes faux et que vous. Voilà. Alors, ça se rééduque et c'est extrêmement facile de rééduquer sa voix. D'accord. Et son chant.
Je me
chant.
Rappelle d'un cauchemar parce qu'il fallait qu'on enregistre un truc pour une compilation. On était avec Bébert, un ancien.
Cauchemar,
non, mais il y a peut-être Macron dans le cauchemar ou Darmanin.
Hein. Et on avait un fond de musique sur lequel on devait chanter.
Ouais.
Et celui-ci, le Bébert en question, nous accompagnait à la caisse claire et il battait le rythme.
Ouais, ouais.
Et c'était affreux, ça a duré
non,
des heures.
Ah,
et
êtes...
ça a duré des heures, des heures et des heures et des
ça
heures.
Ça va mieux maintenant.
Dans un hangar glacial.
Êtes...
Ah oui, ah oui non, non, mais c'est pas là. C'est pas là. Moi, j'encourage beaucoup de mes élèves, surtout les jeunes, à aller dans les chorales. Parce que la chorale. Alors. Pour peu que vous ayez un chef de chœur qui soit un tant soit peu compétent, ce qui n'est pas non plus tout le temps
le cas,
il va vous dire ouais hop mets-toi entre telle personne et telle personne. C'est pas juste une question de pupitre, alto, soprano.
C'est-à-dire que le chef d'orchestre d'un groupe vocal va déplacer les gens en
bien
fonction
sûr.
De leur.
Moi
de
c'est
leur
ce que je fais tout le temps.
D'accord.
Ce que je fais souvent. J'ai eu la quelques semaines, j'ai eu la chorale classique d'Auray dans le Morbihan, où j'avais beaucoup de personnes qui déjà m'ont vu arriver avec ma tête. Alors c'est pas très radiophonique, mais bon, à l'époque j'avais encore plus de piercings qu'aujourd'hui. D'ailleurs j'en ai pas aujourd'hui. Voilà, et qui m'ont dit qui c'est ce gamin qui vient. Voilà, et je parle des gens qui vivent là-bas à l'année. Hein. Je parle pas des touristes parisiens qui nous achètent, etc. Enfin bref, c'est une autre histoire. Mais bref, ils m'ont vu arriver. Ils m'ont dit qui c'est. Et en fait. Voilà, je les ai classés, j'ai dit, toi tu viens là, en plus j'ai tutoyé parce que je suis un peu punk aussi, hein, faut pas oublier. Donc j'ai dit, toi tu viens là, entre telle personne, et tu vas écouter, tu ne vas pas chanter, tu vas écouter ce qu'elle chante, et tu vas te caler dessus, hop, et hop, là, l'oreille se réglait. Elle se réglait. C'est la chorale, c'est extraordinaire pour former l'oreille des gens. Le problème que j'ai...
On se cale sur le voisin et la voisine.
Exactement, exactement. Moi, j'ai fait partie d'une chorale à Rennes 2, qui a été fondée par Nelly Bossard, je me rappelle encore, en 94 ou 95. Et c'était une chorale gospel qui existe toujours. Voilà, et c'était tout l'intérêt d'une chorale, c'est extrêmement formateur, donc voilà. Et bon, après, je ferai en parler des heures, mais ça fera peut-être l'objet d'autres discussions.
D'une autre émission.
On va s'écouter un petit disque, et après, il nous restera un tout petit quart d'heure pour parler
voilà.
De Tropenenpalt.
Ah, avec plaisir.
Au passage. Ouais. C'est parti, on va s'écouter encore un morceau de vos programmations.
Ouais.
Ça cartonne, je suppose.
Alors oui, on va s'écouter Broken. Non, Beyond the Void, tiens.
Allez,
c'est mon groupe de death, quand on est dans le death, allons-y.
Allez, voilà. Vous êtes prêts? Alors, moi, je.
Dying Up.
Vous appuyez sur le bon bouton et je meuble.
C'est parti. Ah
we'll be right back.
Eh bien voilà, tiens, après cet excellent morceau de pure Will de rock'n'roll, mais en tout cas, Nicky va nous expliquer ce que c'est plus précisément.
Alors Dying Hope, c'est mon groupe de gars de l'Orient et de la région, groupe de death. Alors c'est pas, je suis absolument pas sur ce morceau, voilà, parce que j'ai pris la place du chanteur, voilà, donc on est à Quatuor. Et on revient très très bientôt. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
Moi, je voulais le dire parce que je voulais le dédier à Monsieur Blam Blam pour l'ensemble de ça.
Ah oui.
Hein? Vous avez vu?
Oui, carrément.
Alors lui, il n'est pas forcément branché métal, mais c'est un musicologue averti.
Moi, je dédie tous mes Darwin de ce soir pour lui.
Ah, c'est gentil.
Et dans les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais bien qu'on puisse dire quelques mots sur Trumpenpal.
Oui, très bien. Alors,
on va poser la question. Trumpenpal, tiens, je vais prendre le hasard. Tom, c'est quoi ça, le Trumpenpal?
J'en ai aucune idée.
C'est vrai?
Un groupe de musique, je crois.
Non, c'est une maladie qui se transmet avec amour.
Oui, c'est ça.
D'accord.
C'est quoi Trumpenpalium? Trumpenpalium, c'était. Non, oui, voilà, c'est ça. C'est, ouais. C'est l'agent responsable de la syphilis.
Ah, d'accord.
La syphilis. Merci, ouais. L'Amérique du Sud. Hein. Bon, après, on leur a envoyé d'autres saloperies.
Eh bien, vous savez que c'est pas sûr.
Et donc, alors, moi, je connaissais pas. Si, je connais Trumpenpal de nom, certes. Et on s'est penché un peu sur le dossier.
Ouais.
Ce qui m'a surpris, c'est un groupe qui a commencé en 1986. C'est bizarre, je voyais ça années 90 ou autre. Et qui est toujours en existence aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Ouais. Il y a eu une petite parenthèse de quelques années avec Elephant System, mais oui, c'est un groupe qui est apparu en 1986, tout à fait, à Paris, par Marco Neves, l'instigateur, chanteur. Voilà, le chanteur et l'instigateur génial de ce projet musical et grand pionnier de la musique métal industrielle et rock industriel.
Justement, je voulais vous poser une question, mais vous allez m'y répondre, vous qui êtes musicien. Oui. C'est quoi le métal industriel?
Alors, métal indus, qu'est-ce que c'est? Comment on peut définir le métal indus?
C'est
le métal
indus,
alors, oui et non. Si je devais faire un résumé, on va avoir des sonorités métal, rock, punk même, hardcore, et des sonorités électroniques. Alors, hérité de la new wave, hérité du punk. On peut dans la genèse, on peut identifier ça comme ça, mais il y a plein de groupes qui sont par exemple Metal Indus comme Rammstein qui est connu du grand public.
Rammstein,
typiquement
Killing Joke. C'est ça, le j'adore Killing Joke.
Metal Industriel, ça m'a surpris aussi.
Ouais, tout à fait, mais il y a
paraît plus mélodique que comment dirais-je, je veux
comment
dire,
ça c'est pas mélodique
d'accès.
Oui
qui... j'ai vu le regard que m'a lancé Nicky. Quoi, mélodique?
Non, mais oui, bien sûr, je veux dire
plus facile d'accès.
Killing Joke, il y a aussi les Young Gods. Les Suisses de Young Gods qui ont produit des albums de Trumpenpal. On a partagé des musiciens avec Killing Joke. Voilà, moi je suis très très influencé par le bassiste de Killing Joke par exemple qui est décédé alors qu'il enregistrait un EP pour Trumpenpal en Suisse. Ce sont des gens qui sont agglomérés. Il y a aussi Ministry, énorme groupe américain. Voilà, qui a convié
Trumpenpal, c'est une histoire très très longue,
oui.
Et qui regroupe, il y a beaucoup d'artistes qui se sont succédés, et notamment un truc qui nous inquiète, c'est à vous qu'on pense, le poste qui bouge le plus, c'est celui de bassiste.
J'ai vu qu'il y avait 18 ou 19 musiciens qui avaient participé, et il y a 80% c'est bassiste et
qu'est-ce
batterie.
Qui se passe avec ces bassistes?
C'est la section rythmique,
elle est usée.
Alors c'est... c'est très hypnotique. Moi j'ai énormément été influencé par Trumpenpal parce que j'ai découvert ça jeune, Ministry aussi, Nine Inch Nails également, Trevor a été très important dans l'histoire de Trumpenpal. Voilà, c'est des gens qui moi m'ont énormément touché, et quand j'ai eu cette opportunité je me suis dit oui, il y a un côté hypnotique, je parle de la basse, il y a un côté très hypnotique. Moi, je rentre un petit. Alors, ça peut paraître bizarre de dire ça parce que je me drogue plus depuis. Mais il y a un côté très trans dans la manière, dans l'expérience du métal industriel chez Trepon Impal. Y a un côté punk, hardcore, y a un côté reggae aussi. C'est-à-dire que c'est une musique revendicative aussi. Hein.
Alors,
c'est très important.
Reggae,
ça.
C'est bien, vous parliez de toutes ces influences, mais en même temps, quand on préparait l'émission, Jean-Loup vous faisait remarquer que certains des membres de Trepon Impal.
2001, il y a eu justement, je crois, le chanteur a fondé,
oui, Marco,
a fondé Elephant System. C'est rigolo parce que j'adore Elephant System. Alors, Elephant System, c'est quoi? C'est du dub. Ah, pas du dub, le One Piece un petit peu.
Mais je pense que.
Du dub quand même, et Lab avec d'autres parties des
tout à fait.
Où on a quelque part c'est le grand écart.
Ouais. Moi c'est ce qui m'a plu aussi, c'est-à-dire que moi j'ai ça fait longtemps que j'écoute Elephant System. Les fans de Trepon Impal n'ont absolument pas compris
le grand écart.
Ouais. Moi j'étais fan de Trepon Impal et d'Elephant System. Mais moi, je pense que je viens du punk aussi, un peu comme Marco hein, aussi. Donc, et puis, quand on grandit avec de la musique noire, quoi. Enfin, je veux dire, soyons clairs, c'est de la musique revendicative, de combat, de choses comme ça. Le reggae, c'est extrêmement revendicatif. C'est pas juste des mecs qui se droguent, c'est aussi des mecs qui revendiquent.
Donc, c'est parce qu'ils se droguaient qu'ils ont fait du dope.
Non,
ce charbon, il jouait au foot aussi. Hein.
Ouais, voilà. Football is freedom, ça c'est Bob Marley. mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup de passerelles en fait entre le punk et le reggae. Qu'on appelle le ska, en fait, qui est un reggae
clash,
rapide.
On avait vu attention, à quel moment les clashs avaient. Y avait un...
Exactement.
C'est-à-dire qu'on
on peut avoir les clashs à la même époque et les Sex Pistols, qui font pas du tout la même musique, mais qui sont quand même punk.
Ou Police aussi, un côté
ou Police,
un peu reggae,
voilà, exactement. Il y a dans le reggae, c'est une musique de combat. En fait, quand on s'intéresse à cette culture-là, je parlais de mon intérêt pour les musiques caribéennes, etc. Mais voilà, le jour où j'étais auditionné par Trepon Impal, on a parlé de la Jamaïque, par exemple. Moi, je suis allé en Jamaïque, j'ai vu ce que c'était. J'ai discuté avec beaucoup de gens. C'est très britannique, la Jamaïque. C'est des gazons tondus au poil de cul, hein, si vous me passez l'expression, mais c'est ça. Et puis en même temps, quand on s'éloigne un peu de Kingston, on a des gens comme ça, qui sont incroyablement dans le combat, dans un monde où on peut pas mentir, où on peut pas, voilà.
C'est chaud hein, quand même la Jamaïque.
Il y a une violence sociale terrible.
Ouais, bien sûr.
Les colons anglais sont partis, mais ils ont laissé tout le système d'exploitation.
Oui, ils sont partis sans être partis en fait.
Ouais, ils ont laissé le système.
Voilà. Ça fait partie.
On va pas parler de la France-Afrique, mais on est un petit peu pareil quoi.
Et justement, comment vous êtes rentré dans Trepon Impal? Apparemment, vous parliez d'une audition.
Oui, j'ai fait une audition. En fait, alors c'est via les réseaux sociaux. Et en fait, ça fait 30 ans que je joue de la musique, et on a forcément des amis communs, et moi j'étais abonné à la page de Marco, et quand ils disent on recherche un bassiste, j'ai fait ouais pourquoi pas, en fait j'ai juste mis pourquoi pas. Et là j'ai eu des appels à droite à gauche, surtout de mon pote. On a un pote, un très grand ami en commun, Marco et moi, qui s'appelle Crass, qui est un des pionniers de la scène death metal française, justement, donc par le metal hein, et le metal extrême, et qui m'a dit ouais tu devrais y aller, je suis sûr que c'est pour toi, il y a pas de doute, et qui m'encourageait jusqu'à l'audition. Et donc j'ai passé l'audition. La première fois que j'ai eu un coup de fil de Marco, il m'a dit et on est resté trois quarts d'heure, une heure au téléphone à parler musique. Je me dis mais c'est mon grand frère en fait, voilà. Et j'ai envie d'y aller. Et après voilà.
Vous êtes le Benjamin du groupe?
Non, je suis pas le Benjamin du groupe.
Parce qu'il paraît que
c'est le batteur, le Benjamin du groupe.
Je ne réponds pas, les terribles.
Pardon ?
Il paraît que le bizutage à Trepon Impal du
Benjamin. Ça va finalement. C'est bien parce que moi je suis un peu le quepon du groupe avec Laurent.
Ça fait quoi quand on joue dans un groupe de légende comme Trepon Impal?
C'est impressionnant.
Exemple,
moi j'étais. Alors il y a deux choses. Il y a déjà un, jouer dans un groupe de légende. Deux, jouer au Hellfest. Alors jouer dans un groupe de légende, ça fait qu'on arrive, on est un peu comme un gamin et on se remémore les 25 ans où on en a écouté dans sa piole, voilà, dans toutes les conditions possibles. Et on se dit, bon, bah, j'y vais. Et en même temps, on se dit, bah, c'est notre métier, donc on se dit, bah, on a l'audace d'y aller, il faut jamais dire non. Et puis, si on se plante, c'est pas grave. Voilà. Et puis c'est l'occasion de rencontrer des gens incroyables. Et voilà, ça a été le cas. Hein. C'est une famille, hein, très polémique. Et puis c'est des gens réglo. C'est très important aussi de le dire dans le milieu de la musique. Et donc voilà. Donc quand j'étais, quand je suis revenu, voilà, je vais pas vous raconter mon audition, mais quand je suis revenu un quart d'heure après,
il m'ont 30 secondes là.
Voilà, ils m'ont dit welcome. Marco m'a dit welcome. Voilà, c'était un des grands moments de ma vie. Voilà. Et ensuite le Hellfest, l'année dernière. Alors moi, ça correspondait à un carrefour de ma vie où ma compagne m'a quitté au bout de 8 ans. Et le même jour, j'ai appris que je jouais au Hellfest, en fait.
Okay.
Et voilà.
L'ultime question, Triple Pal, il joue bientôt quelque part ?
Alors là, on vient de faire un concert pour soutenir la recherche contre la maladie de Charcot qui s'est passée au mois de janvier, là, donc ce mois-ci en fait. Mm-hmm. Voilà, avec Loud Blast, enfin avec plein de copains. Donc ça, c'est très fort. Et le prochain, on a eu pas mal de dates de reportées de 2023, donc on attend pour Lyon, pour la Belgique. Normalement, on devrait avoir des dates qui devraient tomber incessamment sous peu, mais je ne peux en dire plus.
Vous tapez Triple Pal et vous aurez sûrement plus d'informations.
Un dernier morceau, il faut couper. Ça sera coupé. Ouais, mais il sera coupé. Voilà. On peut quand même vous mettre un dernier morceau.
Voilà, on va se mettre Earthquake de Triple Pal. Voilà. Et extrait du dernier album.
Eh ben, c'est parti. Merci, Nicky.
Merci beaucoup. Merci les Grignoux. Merci à vous.